France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors que le monde politique est confronté à une délinquance sans précédent, puisqu'une partie de la recette de la fête de l'UMA a été dérobée samedi soir, et qu'Emmanuel Macron a vu son numéro de portable publié sur Internet, ce qui est assez embêtant car maintenant il ne sait plus comment profiter des bonus à Candy Crush, et bien ils sont tout de même venus, et ce soir les informés de France Info reçoivent le communicant Franck Tapie. Bonsoir.
Bonsoir.
Également Fatima Elouazdi, bonsoir. Présidente et fondatrice de Politiquelle. François Dorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et Stéphane Vernet de Ouest France, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, on parlera de l'ONU avec le roi de Twitter, également la PMA, le sujet qui fait grincer le gouvernement. On parlera également du plan de Nicolas Hulot et de la semaine sociale. Mais juste avant, nous rejoignons à Sainte-Anne en Guadeloupe, Éric Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes rédacteur en chef sur la chaîne Guadeloupe Première. Toute la journée, nous avons veillé sur Maria, ce cyclone transformé en ouragan qui donc va toucher ou touche actuellement les Antilles françaises. Qu'en est-il en Guadeloupe à cette heure-ci?
Écoutez, on commence à ressentir les premiers effets du cyclone Maria. Où je me trouve donc à Sainte-Anne, sur la côte sud de la Grande Terre. Il y a déjà beaucoup de vent, il commence à pleuvoir, c'est surtout la mer qui est impressionnante, la mer qui est très formée, on attend des creux allant jusqu'à 10 mètres pendant la nuit, ce sera au plus fort du phénomène. Et puis sur le sud de l'archipel, du côté de Basse-Terre, la commune de Basse-Terre, au sud de l'île même de la Basse-Terre, là on a également des conditions qui sont d'ores et déjà très dures, avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie et à nouveau une mer très forte. C'est la crainte, la principale crainte, hein, c'est celle des inondations, que ce soit sur le littoral ou dans les zones qui peuvent être inondées, donc parce qu'on attend également des cumuls de pluie très importants à l'occasion du passage de Maria.
Alors justement la Guadeloupe, donc le gouvernement en Guadeloupe, le gouvernement a envoyé sur place 110 militaires de la protection civile, ça veut dire que tout de même, donc cette menace bien sûr est prise au sérieux, mais on essaye d'être davantage préparé que pour Irma sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Oui, on peut effectivement dire les choses comme cela, de la même manière qu'hier il y a eu une conférence de presse du préfet, parce qu'il faut dire que Maria nous est tombée dessus de manière un peu, on l'a pas vu venir. On avait les yeux rivés encore sur Saint-Martin et sur Saint-Barthélemy. Et puis, on a commencé véritablement à parler de Maria dans la journée de samedi, nous, sur notre antenne, à partir de samedi soir. C'est dimanche midi que le préfet a annoncé que les écoles seraient fermées lundi, aujourd'hui. Et dans l'après-midi, il a tenu une réunion de crise à laquelle ont participé non seulement les représentants des différents services de l'État et des différentes institutions chargées du secours et de la sécurité, mais également les représentants des collectivités, des communes, du conseil régional, du conseil départemental. Vous savez qu'autour d'Irma et du passage du cyclone sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, cette question de l'association des élus locaux, ou de la non-association d'ailleurs, a fait débat.
Merci beaucoup Éric Lefebvre d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes en direct depuis donc Sainte-Anne en Guadeloupe. On fera un point bien sûr sur la Martinique, ce qui se passe en Martinique à 20h30 avec le préfet de Martinique. En attendant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors la ministre des Sports, Laura Flessel, a annoncé ce week-end la mise en place d'une fête nationale du sport hein, qui reviendra chaque année un peu comme la fête de la musique. Message reçu 5 sur 5 par les Français qui anticipent déjà la date de cette fête pour se mettre à la marche en groupe, c'est-à-dire on appelle ça des manifestations en fait. Hein. La réforme du code du travail serait donc bon pour la santé. Pendant une semaine, ce sera un chariot de dessert de la contestation. Routier aujourd'hui, jeudi, journée d'action nationale, samedi, rassemblement de la France insoumise. Lundi prochain, de nouveau les chauffeurs routiers, puis le 28, les retraités. Et ça sera les fonctionnaires et le 10 octobre les retraités. La grogne se diversifie et se cristallise autour de la fin du mois de septembre car c'est vendredi que les ordonnances sont présentées au Conseil des ministres. Emmanuel Macron a dit qu'il ne cédera pas à la colère, mais celle-ci peut-elle perdurer? Le tout en fait, c'est de s'organiser selon le député de la France insoumise, Alexis Corbière.
Quand il y a 6 millions de chômeurs, quand les fins de mois sont difficiles, je comprends les gens qui n'arrivent pas à se mettre en grève en semaine. Mais franchement, je comprends ça très bien. Il n'y a aucun problème. Je ne fais pas la leçon aux gens. C'est pas ça mon sujet. Justement, j'essaie de manifester un optimisme en disant voilà, on essaye. Il y a des journées syndicales. Nous, on fait ça un samedi. On n'est pas obligé de se mettre en grève. On peut venir avec les enfants, quel que soit ce qu'on fait dans la vie. On se retrouve, on fait une grande fête populaire. C'est pas très compliqué. Vous savez, les gens qui ont l'habitude de manifester, ils sont capables de rentrer chez eux le 21, prendre une petite douche, aller se coucher, vivre tranquillement le 22 et puis aller retourner
si vous trouvez ça cohérent. 23.
Voilà, la fameuse petite douche donc d'Alexis Corbière ce matin sur France 2. Franck Tapiro, le gouvernement, il se prépare à une semaine compliquée ou...
Bah, quand on écoute Alexis Corbière, ça sent pas la grogne. Hein.
Ouais.
Ça sent le truc un peu préparé. Bah, la grogne, vous savez, c'est de l'émotion. C'est un peu de rejet, c'est un peu de passion, c'est un peu d'énervement. On sent absolument rien du tout dans cette contestation. Donc moi, non, je suis pas inquiet, puisqu'on sent très bien que c'est un acte uniquement politique, politicien, de la part de Mélenchon et de sa France... dite insoumise, mais elle n'a pas besoin de se soumettre ou de s'insoumettre, puisque là, on ne sent pas de contestation du tout. Donc, il faut faire un peu de buzz, il faut faire de la pub. Donc, c'est un formidable coup de com' pour Mélenchon, mais derrière le coup de com', il y a aussi la réalité. Je suis désolé, mais on ne sent pas une contestation énorme, on ne sent pas de colère, on ne sent pas, vous savez, le ralliement souhaité depuis 68, des étudiants unis avec les ouvriers, main dans la main.
Là, 68, mais ça dépend de la date. Hein.
Exactement. On en est bien loin. Donc, encore une fois, non, je pense que c'est un gros coup de com' pour montrer que certains syndicats, vous savez, entre ceux qui ont commencé à collaborer et d'autres un peu moins, donc on sait que le CFDT FO d'un côté, la CGT de l'autre, Mélenchon qui essaye d'être vraiment l'opposant numéro un à Macron, c'est ça qui se dessine. Mais derrière, là, le travail passera et puis c'est tout.
Alors une chose quand même, Fatima El-Wazdi, les Français, en fait, quand on voit des sondages, certes, ils n'adhèrent peut-être pas à ce mouvement de grogne, mais ils sont prudents, très prudents par rapport aux réformes, notamment aux ordonnances de Muriel Pénicaud et d'Emmanuel Macron.
J'ai vu aucun travail de pédagogie de la France Insoumise ou d'aucun autre parti sur qu'est-ce qu'il y a dans les ordonnances, en fait. Je saurais, personnellement, j'écoute beaucoup d'interviews politiques, j'ai rien vu de concret sur ce qu'il y a dans les ordonnances. Qu'est-ce qui est pas bon et qu'est-ce qui est bon? Enfin, au bout d'un moment, faire une manif, ok, enfin, les ordonnances sont pas toutes publiées, on connaît pas les contenus. Il y a des centaines et des centaines de pages. Donc, ce serait bien de faire un travail de pédagogie avant d'appeler les personnes dans la rue parce que finalement, c'est très bien pour eux qui manifestent. Ben, faut savoir pourquoi ils manifestent parce que moi, je ne sais pas.
Alors, on va continuer à parler de cette semaine sociale à venir. Je vous assure que vous saurez pourquoi Fatima El-Wazdi et les Français peuvent manifester. Dans un instant, l'info à 20h10, Stéphane Milhom.
Les vents atteignent jusqu'à 200 km/h en Guadeloupe. Déjà un millier de foyers privés d'électricité en Martinique. La Martinique en alerte violette. La Guadeloupe en alerte rouge face à l'ouragan Maria. Un ouragan majeur de catégorie 3 sur 5. 1500 secouristes, pompiers, gendarmes et policiers sont mobilisés ce soir en Martinique. Les routiers veulent toujours mettre un frein à plusieurs mesures de la réforme du Code du travail sur plusieurs autoroutes. Ils organisaient ce matin des barrages et opérations escargots près de Lille, de Rouen ou encore en Moselle. Une mobilisation avant leur grève reconductible dès lundi prochain à l'appel des sections transport de FO et de la CGT. La bureaucratie entrave l'organisation des Nations Unies. Le constat est signé Donald Trump avant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Les États-Unis ne constatent pas de résultats à la hauteur de leur contribution financière au budget de l'Organisation mondiale. L'agresseur d'un militaire vendredi dernier, métro Châtelet à Paris, présenté ce soir à un juge antiterroriste. L'homme de 39 ans doit être mis en examen pour tentative d'assassinat sur le soldat en relation avec une entreprise terroriste, un suspect inconnu des services de police. Et puis du vert autour de la Dame de Fer, les travaux de sécurisation de la Tour Eiffel commencent avec l'installation dès aujourd'hui d'une paroi de verre, un mur anti-balles pour faire face à cette menace terroriste. Chantier prioritaire avant d'autres travaux prévus de longue date sur les ascenseurs ou la peinture.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de cette semaine de mobilisation sociale, hein, une sorte de stress test, comme on dit, hein, pour le gouvernement. Alors, François Sivaï, il y a une chose quand même qui est assez intéressante, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sondage qui montre que les Français ne sont pas à la base contre une réflexion autour du Code du travail, mais ne voient pas en quoi ces ordonnances peuvent avoir quelconque impact positif. Ils disent même, et ça va même plus loin, ils disent que ça ne va profiter qu'aux plus aisés.
Aux plus aisés?
Oui.
Ah
tout
oui.
À fait. Voilà,
c'est-à-dire aux grandes entreprises. Alors.
C'est-à-dire aux grandes entreprises, aux personnes voilà, qui ont
question,
davantage d'argent.
La question est bizarre.
Bien sûr.
La question est bizarre.
Non, mais exactement. Non, mais non. Ils disent en personne, c'est-à-dire que le Français de classe moyenne ou même de plus bas de classe ne va pas en profiter. Ça va profiter vraiment aux personnes qui ont le plus d'argent.
Je veux dire, ça veut dire une chose, c'est que la pédagogie anti-ordonnance, c'est ce que vous venez de dire, et je dois dire que c'est intéressant que vous le disiez, que ce soit vous qui le disiez, la pédagogie anti-ordonnance a été très insuffisante puisque les gens n'ont pas compris pourquoi il fallait être contre. Mais est-ce que la pédagogie gouvernementale a été meilleure? Est-ce qu'on a suffisamment dit que si l'on passait par ordonnance, c'était pour aller plus vite et c'était surtout pour retourner la confiance du côté des créateurs d'emplois et des chefs d'entreprise? Est-ce que ça a été suffisamment expliqué? Ou bien est-ce qu'on a compris que c'était une épreuve de force? L'épreuve de force, on l'a cette semaine.
François Tapiero, c'est vrai qu'on a eu l'impression aussi que le gouvernement n'a pas fait aussi peut-être un effort de pédagogie pour expliquer davantage. On se souvient de la conférence de presse d'Edouard Philippe, tout était très technique. Il y a beaucoup de points et il faut vraiment s'y pencher pour comprendre.
Il y a eu un démarrage lent. On a démarré en deuxième qu'un diesel ancienne catégorie. On va parler de diesel tout à l'heure. Donc c'est vrai que le démarrage a été lent. Alors que c'est vrai qu'Emmanuel Macron s'est positionné comme, évidemment, un président qui revêt l'habit du président, mais surtout sur un axe très important, c'est la pédagogie. On en parlait très justement tout à l'heure. Et ce que Emmanuel Macron a très très bien fait pendant toute sa campagne, avec justement essayer d'être dans la pédagogie, dans l'explication de texte. Là, on était un peu dans le concept. Et c'est vrai que tout à coup, les ordonnances, le mot ordonnance était devenu une marque. C'est-à-dire, en fait, on ne parlait plus carrément de la loi travail, on parlait des ordonnances. Donc tout se positionnait par rapport aux ordonnances, alors que personne ne sait exactement ce qu'est une ordonnance. Est-ce que c'est comme le 49-3? Non. C'est fait pour accélérer, etc. Donc finalement, on envoie des marques comme ça, on envoie des mots, on envoie des concepts, et les gens ont des postures a priori face à ces concepts, et donc on ne descend pas dans le fond, on n'explique pas, on ne donne pas de sens. Donc comment voulez-vous qu'on soit même pour ou contre? Parce qu'on parle d'une pseudo-contestation, on la voit, qui est totalement ratée, mais il n'y a pas non plus d'engouement. Et c'est en cela, moi, que je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'avec la faible mobilisation contre,
de la semaine dernière,
exactement, on aurait pu créer un engouement beaucoup plus fort en disant il y a 2-3 faits pointus qui vont faire que on va changer la vie des entrepreneurs et donc provoquer plus de croissance, plus d'emplois.
On le voit tout de même, il y a une prudence, cette dernière, autour de ça. C'est-à-dire que peut-être que les Français ne comprennent pas, il n'y a pas eu assez d'efforts, mais en tout cas, on voit qu'il y a peut-être une prudence par rapport à ces ordonnances, cette loi travail. On ne sait pas trop en quoi ça peut apporter de l'emploi.
Alors moi, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. En fait, c'est technique, c'est un débat technique, c'est compliqué. On voit pas très bien ce qu'il y a derrière ce système d'ordonnance et c'est pas mobilisateur. Alors après, sur le premier rendez-vous de la semaine dernière, celui du 12, il y avait quand même entre 450 000 personnes dans la rue selon les syndicats, 200 000 selon la police, 60 000 à Paris, 24 000 selon quel point de vue vous placez. Oui. Moi, j'y étais, ça fait quand même du monde. On sentait pas effectivement une colère massive, etc. Mais je vous rappelle que la première manifestation, la première mobilisation, la première journée de mobilisation contre la loi El Khomri l'année dernière avait peu ou prou rassemblé autant de monde. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que là, on est dans une séquence où il y a plein de manifestations qui sont annoncées, qui s'enchaînent. Voilà. Est-ce que ça va faire monter la mayonnaise comme l'année dernière? Est-ce que la question, elle est là. Il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. D'abord, c'est qu'il y a des divisions au niveau syndical. Par exemple, on parle des routiers qui manifestent aujourd'hui, mais les routiers qui manifestent aujourd'hui, c'est ceux de la CFDT. Et ceux de la semaine prochaine, ce sera CGTFO, donc ils s'entendent pas. On a vu à la fête de l'UMA ce week-end que le Parti communiste et la France insoumise, décidément, n'arrivent pas à s'entendre. Donc il y a des gens qui voudraient réussir à faire en sorte qu'il y ait une collusion entre tous ces mouvements pour faire prendre quelque chose. Et puis,
ils ne s'entendent pas, contrairement à la loi El Khomri, en fait, ensemble.
Mais attendez, mais même quand vous dites qu'ils ne s'entendent pas comme dans la loi El Khomri, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie? Rien. La loi El Khomri a été adoptée, avec toutes ses insuffisances, puisqu'il fallait recommencer, mais elle a été adoptée. Et c'est évidemment sur ce terrain-là que se situe Emmanuel Macron aujourd'hui. Il dit, la bataille politique, je vais la gagner, la bataille de l'opinion, on verra, mais la bataille politique, je vais la gagner parce que j'ai la majorité, qu'elle m'a déjà voté ma loi de rectification des ordonnances, je vais les présenter et on va les publier, c'est tout. Donc le Conseil des ministres, il ne va faire que ratifier, en quelque sorte, tout ça.
Ça peut expliquer un des paradoxes du sondage que vous avez cité à plusieurs reprises, Jean-Mathieu. Là, ouais. C'est le sondage Viva Voice qui a été publié sur 3 pages par Libé ce matin, ouais. Et qui dit qu'en fait, les gens ont peur des ordonnances, même s'ils ne comprennent pas bien comment ça marche. Il y a 68% des gens interrogés qui pensent qu'elles favoriseront les licenciements, 60% qui pensent qu'elles vont augmenter la précarité. Mais quand on demande à ces mêmes sondés s'ils soutiennent la manifestation de jeudi, il y en a que 34% seulement qui disent oui, les autres ça les intéresse pas ou ils soutiennent pas, et celle de samedi pour la c'est encore pire, c'est 30% seulement.
Il y a un problème de sémantique là, je vais le dire avec un petit point d'humour, mais le mot ordonnance,
c'est normal de la part du communicant quand même.
Évidemment, mais le mot ordonnance quand même résonne
pour le médecin et le pharmacien.
C'est le médecin, c'est le pharmacien, une France on le sait plombée avec une sécurité sociale exsangue et des Français qui sont les plus grands surconsommateurs de médicaments. D'antidépresseurs, etc. Donc c'est vrai qu'il y a plus positif comme mot qu'ordonnance. Moi j'aurais changé ce mot-là. Il y a plein de mots qui me font pas. Le mot retraite, c'est un mot qui tue. Il y a des mots qui tuent. Ouais. Le mot ordonnance n'est pas un mot positif. Donc n'oublions pas que d'un point de vue psychanalytique, je dirais dans l'inconscient, le français a peur des ordonnances.
Attendez François, juste. Fatima El-Ouazi dit on se souvient quand il y a eu le 49-3, plusieurs fois Manuel Valls l'a utilisé plusieurs fois. Ça a été à chaque fois un psychodrame. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, on lui a beaucoup reproché. Lui-même aujourd'hui dit je l'aurais pas fait si j'avais su. Est-ce que c'est des ordonnances finalement aujourd'hui dans l'inconscient, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus d'avoir quelque chose qui est imposé.
Mais c'est pas imposé. En fait, il faut garder en tête que le projet d'habilitation pour les ordonnances a été largement voté par une majorité qui a été élue il y a quelques mois. Enfin, le problème, c'est que aujourd'hui, on a une opposition politique qui se bat uniquement sur des critères politiques, politiciens, et qui ne se bat pas sur le fond des idées. C'est-à-dire que ce projet d'ordonnance, il a été débattu en long et en large par la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Mmh. Ils ont pollué Twitter, tous les réseaux sociaux avec leurs vidéos. On a vu qu'ils se sont battus contre cela à l'Assemblée. Ils ont une parole, ils ont maintenant un groupe. Et maintenant, le travail aussi est à faire à l'Assemblée. Il n'y a pas eu un coup de force du gouvernement puisque ça a été annoncé pendant la présidentielle. Les Français ont voté pour Emmanuel Macron. Les Français ont voté pour La République En Marche aux législatives. Et donc, les Français sont pour les ordonnances.
Ils veulent qu'ils réussissent.
Voilà, ça me paraît logique. Oublie. C'est un raisonnement un peu facile, mais c'est le raisonnement sur lequel je trouve qu'on devrait se baser aujourd'hui.
Alors, on va parler dans un instant, justement, comment répond à cette grogne pour la majorité qui était justement aujourd'hui en séminaire. Dans un instant, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Contre la réforme du Code du travail, l'UNSA ferroviaire se raccroche au wagon de la contestation. Le deuxième syndicat de la SNCF annonce qu'il participera lui aussi à la journée de mobilisation jeudi prochain. Pour l'UNSA, la réforme provoquera en l'état un recul social important pour l'ensemble des salariés et notamment du ferroviaire. 10 jours après le passage de l'ouragan Irma, les Antilles attendent avec appréhension le cyclone Maria. La Martinique est en alerte violette, le plus haut niveau, la Guadeloupe en alerte rouge. Maria se renforce en ouragan de catégorie 3 sur 5, c'est-à-dire avec des vents dépassant les 195 km/h. 1400 victimes de l'ouragan Irma prises en charge en Île-de-France. 1400 personnes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy arrivées en métropole ces derniers jours. Parmi elles, plus de 130 personnes vont bénéficier d'un hébergement d'urgence après un accueil spécifique dès leur arrivée à l'aéroport. Après la tentative de chantage sur le footballeur Levin Kurzawa, 5 personnes sont mises en examen, dont 3 placées en détention provisoire. Ces suspects auraient fait chanter le joueur en lui réclamant 100 000 euros pour ne pas diffuser une vidéo cachée. Et sur les images, Kurzawa critiquait Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Et puis JC Decaux remporte le contrat des vélos en libre service à Lyon, un contrat de 15 ans pour gérer les vélos, avec la promesse d'en proposer la moitié en vélo électrique à la location. JC Decaux gère les Vélib à Paris jusqu'à la fin de l'année, mais ne sera pas renouvelé en janvier.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on vient de voir donc une semaine compliquée hein, quand même se prépare pour le gouvernement socialement parlant. Mais justement pour répondre à cette grogne, eh bien c'était l'un des sujets du séminaire réunissant aujourd'hui et demain les 313 députés En Marche à Aubervilliers au programme Média Training, cohésion de groupe et surtout méthode de la Légion étrangère pour éviter d'être collé par Manuel Valls hein, puisque l'ancien Premier ministre était d'ailleurs présent à Aubervilliers. Alors une question tout de même Franck Tapiro, puisque vous êtes communicant. Qu'est-ce qu'on fait dans ces séminaires? Parce qu'on dit média training, etc. Qu'est-ce qu'on fait en fait?
Alors déjà, ça s'appelle du team building.
Ouais.
Alors, c'est un mot
construire donc
construire en équipe.
D'accord.
Donc
et
c'est
du
créer co-working, cohésion, donc. Du coworking. C'est tous les mots casquettes qu'on emploie sans arrêt. Créer un écosystème favorable, bénéfique à la création de liens émotionnels entre nous. En gros, ça veut dire quoi?
Le vivre ensemble.
Le vivre ensemble. Ah oui, ça c'est magnifique aussi. Ils sont pas tous du même niveau en fait. Il y en a qui sont un peu plus férus de politique que d'autres, d'autres qui sont de meilleurs communicants que d'autres. Mais on voit qu'il y a en fait des couacs. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous dans la raquette. Donc l'idée est de créer, on espère, hein, un seuil assez haut pour faire de l'aspiration par le haut et non pas du nivellement par le bas. Donc l'idée dans une entreprise, quand on a comme ça des décalages d'informations, de talents, vous regroupez tout le monde avec une vision commune, ça c'est important, une culture commune, et on va tout simplement refaire finalement l'ADN de ce qu'est la France en marche, mais surtout le mode d'emploi. Parce que au démarrage, n'oublions pas qu'il y a deux ans qui parlait de la France en marche, personne.
Ouais.
Mais Emmanuel Macron, tout le monde, même ici, rappelez-vous, quand on disait qu'il avait des chances, qu'est-ce qu'on entendait? Mais alors aujourd'hui, maintenant que ce parti-là finalement est au pouvoir, ils ont été au pouvoir, mais ils n'ont pas construit finalement leur mode d'emploi, leur mode de culture, et finalement on ne sait pas ce qu'ils partagent. Donc là, ils seront tous ensemble, ils pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Maintenant, il faut que sur scène, que dans les groupes, il y ait des chefs d'équipe qui donnent une vision claire. Donc j'espère que Ferrand et les autres qui doivent créer ce lien qui manque entre eux, seront clairs entre eux, parce qu'il n'y a pas pire que de faire un team building et de ressortir un qui vous dit « Ah ben on va au nord », l'autre qui dit « On va au sud », à l'est ou à l'ouest. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui.
Oui, beaucoup sont à l'ouest, bien sûr.
Stéphane Bernet, est-ce que c'est aussi une manière de trouver finalement des histoires de porte-parole de l'action gouvernementale, parce qu'on voit toujours les mêmes, c'est-à-dire Christophe Castaner, de temps en temps Benjamin Griveaux, mais on ne voit pas finalement tellement de nouveaux députés, c'est-à-dire notamment ceux qui sont issus de la société civile. Emmanuel Macron en a beaucoup parlé, aujourd'hui on ne les voit plus du tout.
Alors ça, c'est un des objectifs affichés de ce séminaire, hein. C'est que l'idée pour eux, c'est ils savent qu'ils tournent sur une douzaine de visages.
Et encore,
d'élus, de députés qui sont expérimentés, qui connaissent la musique, qui savent s'exprimer dans les médias et qui occupent les plateaux, les antennes. Et ils ont envie de faire monter, de faire progresser un certain nombre d'élus dans leur rang qui pensent pouvoir flécher sur des spécialités. Et c'est ce qui leur manque. Mais ce qui vient d'être dit est très vrai. Le problème de... En réalité, en fait, Emmanuel Macron avec En Marche a réussi ce que François Bayrou a raté avec le MoDem l'avant-dernière élection présidentielle.
En 2007.
Et voilà. Et on avait vu que le MoDem, après l'élection, en fait, c'était complètement déballonné, délité. Parce que quand vous faites appel à la société civile 1-2, pardon, c'est très bien, c'est super sympa. Vous faites arriver du sang neuf, des gens qui sont plein de bonne volonté, qui arrivent avec des expériences différentes, qui sont pas polluées par la politique, mais quelque part, très vite, vous pouvez vous rendre compte aussi que un bon chef d'entreprise, ça fait pas forcément un bon tribun, un bon politique, que c'est pas le même job, que ça s'improvise pas et que ça s'apprend. Et donc, dans le groupe des députés En Marche qu'il y a aujourd'hui, vous en avez quelques-uns qui sont expérimentés, qui sont bons d'emblée, quelques autres qui vont pouvoir progresser et qui deviendront de très bons élus, de très bons députés à force de travailler dans le temps, et puis d'autres, à mon avis, qui resteront bons dans d'autres domaines.
Ce qui est étonnant, François,
oui, c'est ça.
On a pu lire aujourd'hui par un article dans Le Monde qui disait l'idée déjà, alors on avait l'impression que c'était un petit peu un club, une sorte de club Aquarius, hein, parce que c'était il faut qu'on se connaisse déjà. Et donc, en fait, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Toute la journée,
non,
ils sont là.
Non, ça, c'est vrai. Non, mais c'était la même chose. C'était la même chose en 81 pour les socialistes, ou même en 2012 pour un bon paquet de socialistes, encore qu'ils étaient attachés
par le parlementaire. Parce qu'ils disaient, par contre, mais c'est quand même des militants vraiment de base. En Marche, ça avait un an.
Mais. Ce qui les réunit désormais, c'est le travail politique.
Oui.
Et ça, il y en a un paquet là-dedans qui ne savait pas ce que ça voulait dire. Le travail politique. Dans une organisation, puisqu'il ne s'agit pas de parler de parti, surtout pas, ça c'est le monde ancien, mais dans une organisation politique. Et quand vous voyez qu'il y a 17 députés de la France insoumise réussissent à occuper tout l'été... Ils ont du boulot à faire.
Fatima Loisy.
Ce qui m'avait frappé personnellement cet été, c'est quand j'avais lu dans la presse que certains députés voulaient carrément démissionner et repartir dans le privé, dans La République En Marche. Ça montre que vraiment, il y a une grosse démobilisation et de personnes qui ont finalement cherché à être élus députés sans savoir ce que c'était.
Un député, ça
vote le projet de loi de finances, de financement de sécurité sociale. C'est pas très sexy comme sujet, c'est très technique, etc. Donc, il s'agit pas de. C'est pas un travail où on court les plateaux, c'est un travail où vraiment on travaille à l'Assemblée, dans son groupe, dans sa commission. il faut être assidu. Donc certains, je pense qu'il y a eu une grosse démobilisation, des personnes qui n'ont pas su ce que c'était vraiment ce travail-là. Et donc il y a eu un travail de pédagogie à faire aussi au sein du groupe. Et c'est vrai que demain, ils vont faire des workshops sur ça, des ateliers de travail sur ce travail législatif. Et c'est bien qu'ils apprennent ce que ça veut dire être député.
Voilà, préparez-vous donc à vos workshops, en tout cas pour demain. C'est beaucoup de noms, en tout cas, à retenir ce soir. Dans un instant, on parlera du plan présenté par Nicolas Hulot. On parlera également PMA. Et on ira faire aussi un tour en Martinique dans quelques minutes. Hein, les informés de France Info reviennent.
Votre succès est notre succès. Vous créez, nous imprimons. Vos imprimés personnalisés, faciles à commander chez Online Printers. Avec Online Printers, le temps n'est plus une contrainte. La seule limite est votre créativité. Online Printers, l'expertise d'un imprimeur traditionnel alliée à la réactivité des solutions web to print. Du petit au grand format, votre partenaire pour tous vos besoins d'impression. Déjà 600 000 professionnels nous font confiance, pourquoi pas vous? Connectez-vous sur onlineprinters.fr/info.
Si je te dis porte blindée, tu me réponds ?
Point fort fichet. Ma sœur s'est fait installer une porte blindée après son cambriolage.
Eh bien, du 19 septembre au 7 octobre, Point fort fichet reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 600 euros.
Je fonce !
Point fort fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Restez connectés à France Info sur tablette et smartphone. Téléchargez l'application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et abonnez-vous aux alertes pour ne rien manquer de l'actualité. Franceinfo.fr, c'est aussi votre site d'information en continu et des infos à partager sur tous les réseaux sociaux.
France Info. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Les températures vont rester encore fraîches avec des minimales comprises demain matin entre 5 et 14 degrés. Et demain après-midi, il fera 15 degrés à Lyon, Strasbourg et Metz, 17 degrés à Paris, Brest, Lille et La Rochelle, 20 degrés pour Toulouse et pour Marseille et 22 degrés à Nice et Bastia. Côté ciel, il faudra encore composer avec des averses entre l'Auvergne, les Alpes du Nord et les frontières allemandes. Demain après-midi, ces averses seront même localement orageuses et neigeuses au-dessus de 1500 mètres d'altitude en Savoie. Entre les Hauts-de-France, la Normandie et le centre-val de Loire jusqu'en Bourgogne et à l'est du plateau Lorrain, quelques averses seront encore possibles en matinée, mais le risque deviendra plus faible l'après-midi et les éclaircies prendront de plus en plus de place. Partout ailleurs, la journée sera plus clémente. Autour de la Méditerranée, le soleil brillera dès le matin. Temps plus changeant en Corse, qui verra circuler de petites averses. Entre la Bretagne, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, le début de journée sera localement gris avec la présence de brouillard et de nuages bas. Mais cette grisaille va finir par se dissiper avant la mi-journée. L'après-midi se passera sous les belles éclaircies, notamment dans le sud-ouest.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Camille Revel, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La Guadeloupe en alerte rouge cyclonique. La Martinique en cran au-dessus, encore le plus élevé. Alerte violette, les deux îles se préparent au passage de l'ouragan Maria, ouragan de catégorie 3, sur une échelle qui compte 5 niveaux. 10 000 foyers martiniquais sont déjà privés d'électricité. Conséquence de ces alertes, les transports en commun sont interrompus, les écoles fermées, l'activité économique stoppée et les grands rassemblements annulés. 10 jours après la dévastation causée par l'ouragan Irma, Maria devrait passer à 150 km au large de Saint-Martin, mais causer de fortes précipitations sur l'île. Béatrice Duguet, vous êtes aux côtés de Saint-Martinois, des habitants qui sont bien sûr très inquiets, Béatrice.
Pour être très franche, l'ambiance est assez fébrile à Saint-Martin ce matin. Forte activité liée à cette arrivée de Maria, même si a priori l'île sera plus touchée par des pluies et pas forcément par du vent fort. Les cumuls de précipitations pourraient être importants et cette perspective-là préoccupe Suzanne Villemot qui habite Le Pirate, bâtiment très endommagé entre les quartiers de Marigot et de Sandy Ground.
C'est une pièce sécurisée qui est au sec, mais s'il commence à pleuvoir, ça va inonder les pièces du haut. Qui vont inonder aussi les pièces du bas. Si je dois vivre les pieds dans l'eau, là, c'est plus possible. On a fait ça 48 heures après le cyclone. Là, maintenant, là, on ne peut plus.
La crainte de tous, c'est d'ajouter évidemment de la difficulté à une situation encore chaotique ici. L'île est très embouteillée ce matin parce que la circulation est entravée par un tas de petits camions, des déblaiements primordiaux parce qu'en cas de forte pluie, les tas d'objets encombrants, de troncs, de grillages, de tôles peuvent devenir très dangereux carrément. Il y a des quartiers en pente ici et des détritus déstabilisés sont autant de menaces vitales.
À Saint-Martin, reportage France Info signé de notre envoyée spéciale, Béatrice Duguay. Ils disent avoir été entendus et attendent jeudi pour voir si le gouvernement fera marche arrière concernant leur secteur. Une délégation de 5 routiers de la CFDT et de la CFTC reçue au ministère du Travail à la mi-journée en marge d'une journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail. Les syndicats craignent une précarisation des contrats. La Corée du Nord, la Syrie, l'Iran ou encore le réchauffement climatique. Voici quelques-uns des thèmes au cœur d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump ce soir à New York. Le président français est aux États-Unis pour l'Assemblée générale des Nations unies. Il doit y prononcer demain son premier discours devant l'ONU. Donald Trump lui lance ce nouvel avertissement à la Corée du Nord. Les États-Unis disposent de puissantes options militaires pour répondre à la poursuite du programme nucléaire de Pyongyang, avertit le président des États-Unis dans un discours prononcé tout à l'heure sur la base militaire américaine d'Andrews dans le Maryland devant des centaines de membres de l'US Air Force, l'aviation américaine. 20h33 sur France Info. Ils sont de retour, ce sont les informés.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés et également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils cavalent au jumping de l'actualité. Hein. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le communicant Franck Tapiro, Fatima El-Ouazdi, présidente fondatrice de Politiquelle, également François Lorcival de Valeurs Actuelles et Stéphane Vernet de Ouest France. Tout de suite, on va partir à Fort-de-France hein, puisque nous suivons bien sûr l'évolution de la situation avec ce nouvel ouragan qui s'appelle Maria. Nous rejoignons Franck Robin. Bonsoir.
Bonjour,
excusez-nous. Voilà, vous êtes préfet de Martinique. Où en est-on à cette heure chez vous en Martinique avec le passage de l'ouragan Maria?
Écoutez, le point essentiel, c'est que Maria a un peu ralenti sa course puisqu'il se déplace maintenant entre 10-13 km/h. Ce qui fait que le point le culminant sera non plus vers le début de l'après-midi, mais sans doute la deuxième partie de l'après-midi. Il arrive avec la force attendue. Hein. Pour le moment, le danger essentiel, ce sont les vents dont on s'attend à ce qu'ils atteignent 180 km/h. Donc vraiment, pour la population, la consigne, c'est de se mettre à l'abri des projections et de la dangerosité de ces vents.
On a appris qu'il y avait à peu près 1000 foyers en Martinique qui étaient déjà privés d'électricité. Est-ce que ce nombre augmente ou aujourd'hui on est encore à cette heure-ci à peu près à 1000 foyers?
Non, effectivement, c'est ça. Hein. Ça représente 10% à peu près du nombre de foyers. Bien évidemment, ce sont des chiffres qu'on actualise en temps réel. Mais évidemment, comme le cyclone n'est pas encore à son stade le plus fort, je m'attends à ce qu'il y ait un nombre croissant de coupures d'électricité dans l'après-midi et jusqu'au commencement de la soirée à l'heure d'ici.
Quelles ont été, Franck Robin, les premières consignes données par l'État aux habitants de la Martinique?
Écoutez, lorsque nous sommes passés donc en fin de matinée à la stade d'alerte violet, la population a été invitée à se mettre à l'abri, c'est-à-dire à rester chez elle dans les endroits sûrs et à se confiner en fermant les portes, les fenêtres, en se barricadant. Il est essentiel vraiment de ne pas sortir. On a d'ailleurs eu un échouage là d'un petit voilier, heureusement sans conséquence pour le marin qui était à bord. Donc vraiment, c'est une phase qui est dangereuse. Immédiatement avec les vents donc qui sont d'ores et déjà très forts et qui vont s'intensifier, et puis à partir de la fin de l'après-midi et toute la nuit avec les pluies qui vont être torrentielles, hein, il faut le dire, puisqu'on attend 250 à 300 mm d'eau, ce qui sont des niveaux très importants jusque à peu près la mi-journée demain.
Encore une chose, Franck Robin, l'impact psychologique d'Irma sur des îles voisines, Saint-Barthélemy et également Saint-Martin, est-ce que vous l'avez ressenti auprès de la population? Est-ce que vous avez ressenti une appréhension particulière par rapport à ce nouvel ouragan?
Écoutez, je crois qu'on peut dire que la population effectivement est très sensibilisée, puisque sur le site Facebook de la préfecture, nous avons eu 100 000 hits pour s'informer lors du passage en alerte rouge. Donc on voit une très forte réactivité, hein, ce qui se comprend compte tenu des dégâts qu'a causé Irma.
Et une dernière chose, on l'a parlé à un moment d'un manque peut-être de préparation, on ne sait pas encore, autour de l'ouragan Irma. Est-ce que vous avez l'impression que là, il y a eu plus de choses de fait pour se préparer au passage de ce nouvel ouragan?
Bon, je vous rappelle que pour Irma, il y avait eu des mesures de prépositionnement d'unités, hein, y compris d'unités de la sécurité civile qui venaient de Brignoles, qui avait été projeté, qui a été installé sur Saint-Martin. Et c'est là, pour ce qui nous concerne, moi j'ai actuellement 1500 hommes qui ont été mis en alerte dans les différents points de l'île. On qualifie ça de prépositionnement dans les casernes, pour qu'ils soient prêts à intervenir immédiatement en cas de danger pour les personnes.
Merci beaucoup, Franck Robin. Vous étiez en direct de Fort-de-France, préfet de Martinique. On suivra bien sûr l'évolution tout au long de la soirée sur France Info à propos de ce nouvel ouragan portant le nom de Maria. Alors justement, à propos d'environnement, alors on ne parle pas là de changement climatique, mais on parle de plan climat, puisque pour quelqu'un qui avait déclaré n'éprouver aucun plaisir à être ministre, eh bien Nicolas Hulot a dû souffrir, hein, pour finir son plan climat. Il a révélé les quatre premières mesures phares de son plan dans une interview au journal Libération. Prime au changement de véhicule, étendue à tous les ménages, chèque énergie, aide à l'achat d'une chaudière, convergence fiscalité diesel essence. Nicolas Hulot prend plaisir à souffrir, un nouveau Saint-Sébastien, hein, mais bio. Franck Tapiero, c'est un plan ambitieux pour Nicolas Hulot. D'ailleurs, son ambition, c'est d'agir aussi sur tous les ministères. Est-ce que vous pensez qu'il pourra aller jusqu'au bout?
Ben on va voir le résultat. Ouais. Encore une fois, il faut que ça prenne, comme on dit. Mais encore une fois, sur la phrase, là, sur prendre aucun plaisir, en gros, ce qu'il a voulu dire, je pense, en termes de communication, c'est peut-être maladroit. C'est que son objectif n'était pas d'être ministre à tout prix, mais de pouvoir être actif ouais. et utile à c'est la ça. Société. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, ce serait injuste de dire qu'il y va à contre-cœur. Maintenant, dans son action, je pense que ce qu'il fait, c'est enfin, je trouve, redonner du sens au terme écologiste. Parce que moi, depuis des années, j'ai jamais compris que l'écologie devienne un parti. D'ailleurs, on n'a jamais vu des écolos d'accord. On ne sait pas finalement qui est écologiste. Ce sont les anciens du PS qui ont raté la marche du dessus, qui sont mis dans les partis écologistes. Et au lieu de le faire, ce que j'ai proposé il y a une quinzaine d'années, dans tous les partis politiques, j'avais proposé que dans chaque parti, il y a un vice-président qui soit le responsable écologiste de chaque parti, de tous les partis, pour non pas faire de l'écologie une vision verticale, un parti, ce qui est une erreur absolue, c'est le plus grand échec de ces 30 dernières années, l'écologie, mais au contraire d'en faire une vision citoyenne transversale. Et c'est ça qui est intéressant. Tout le monde me dit, ouais, écolo, mais le mot écolo, je le déteste, ce mot écolo. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est citoyen aujourd'hui, avant tout, et que l'écologie fait partie de la citoyenneté. C'est horrible de dire, ah bah, il y a les écolos, donc à gauche, bien entendu, et les autres. Mais non, c'est faux. Aujourd'hui, quand on est citoyen, on doit intégrer l'écologie comme un des constituants forts de la citoyenneté. C'est la politique, malheureusement politicienne, qui a fait de l'écologie un attribut de gauche, qui a complètement dévoyé de son sens la vision écologique dont on a besoin aujourd'hui. Donc je pense qu'il va peut-être rattraper un peu cela et faire enfin de l'écologie une vision transversale et citoyenne auquel tout le monde pourra participer.
Alors on va continuer à parler de ce plan climat dans un instant, enfin les premières mesures hein, annoncées par Nicolas Hulot ce matin. Dans un instant, l'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Maria, désormais classée en ouragan majeur de catégorie 3 sur 5. La Martinique sur la trajectoire. La Guadeloupe ne devrait pas être directement touchée, selon prédicte une filiale de Météo France. Le préfet le confirmait sur France Info il y a quelques minutes. Un millier de foyers privés d'électricité en Martinique. Les populations mises à l'abri devant le risque d'inondation et de glissement de terrain. Alain Souchon, Carla Bruni, KPO et Bernard Lavillier, quelques-unes des têtes d'affiche qui chanteront demain soir pour les Antilles. Une émission diffusée dès 20h55 sur France 2 en collaboration avec Radio France pour récolter de l'argent, aider à la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Des barrages, des opérations escargots, des routiers sur plusieurs autoroutes ce matin dans le Nord, la Normandie et en Moselle. Une mobilisation avant leur grève reconductible dès lundi prochain à l'appel des sections transport de FO et la CGT. Une délégation a été reçue pendant plus d'une heure au ministère des Transports. Face à la Corée du Nord et ses tirs de missiles, la seule démarche possible est la pression, pas de sanctions. Parole de Jean-Yves Le Drian depuis le siège de l'ONU. Le ministre français des Affaires étrangères souhaite que les pays fassent pression de manière très forte, mais pas d'action militaire. Et puis les éditions Nathan retirent le manuel de mathématiques controversé, retire et rembourse cet ouvrage pour les terminales dans lequel il y avait un exercice de mathématiques appelant les élèves à compter des migrants. Après avoir présenté ses excuses, l'éditeur s'engage à fournir gratuitement un exemplaire corrigé.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons eh bien des premières mesures concernant le plan climat de Nicolas Hulot. François Orcival, on voit quand même aujourd'hui, Nicolas Hulot souhaite quand même être assez offensif. Hein. Il dit par exemple aujourd'hui sur pour remplacer sa prime au changement pour remplacer sa voiture, on ne l'étend pas seulement, c'est plus seulement les ménages les plus modestes, mais c'est tous les ménages français, ça veut dire que c'est quand même un impact important, non ?
Non, ça veut dire que l'État subventionne la vente des automobiles. Alors, le problème que je me pose, c'est quel résultat attend-on de cela ? Sur quel type de on va avoir des taux de remplacement qui vont signifier que Hulot a remporté sa victoire. Les histoires de primes à la casse, il y a 30 ans qu'on connaît ça, pour remplacer les voitures anciennes. Alors maintenant, c'est le diesel. Avant, c'était au contraire les vieux véhicules qu'on remplaçait par du diesel neuf. Bon. En réalité, moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, tout ça est bien, puisqu'il s'agit de renouveler, moderniser, rééquiper, etc., qu'il s'agisse des chaudières, donc du chauffage
domestique. C'est surtout aussi de lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, c'est ça le résultat. Ben. Et vous croyez qu'on va le voir dans les 2-3 ans ?
Non, c'est comme l'économie, c'est sur du long terme.
Quand même pas, c'est sur du long terme, on est d'accord. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il va faire à Notre-Dame-des-Landes, pour vous dire la vérité.
Ah oui, alors ça, oui, non, mais c'est autre chose.
Ah bah oui,
non, mais c'est autre chose. Non, mais François, c'est normal, non, mais parce que je sais pas ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, vous devez avoir quelque chose là-bas, je ne sais pas, peut-être.
Il est chargé. Lui
bien sûr.
Aussi,
si ça vous intéresse, je vous le dis, je vous donne la date, ça sera le 1er décembre prochain.
Voilà, nous aurons
un petit rapport d'expertise et vous serez là pour en parler.
Remplacer les voitures diesel, pour le moment, c'est du simple.
Oui, mais c'est tout de même important, Fatima Loisy.
Juste pour compléter, en fait, dans les projections pour les voitures, Nicolas Hulot a annoncé 100 000 voitures remplacées, c'est ça, son objectif personnel. Après, 100 000 voitures sur un parc automobile, je ne sais pas de combien. En France, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc voilà, après, c'est faire du neuf avec du vieux, c'est tout le temps la même mesure. Mais moi, je remarque que de toute façon, pour parvenir à finalement à un état plus écologique et environnementalement plus durable, il faut quand même que ce soit l'État qui insuffle tout cela. Donc, il y a besoin de la loi, il y a besoin de sensibilisation, il y a besoin de campagne. Je pense que c'est pas forcément obligé de distribuer des subsides comme ça, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur des mentalités. C'est comme pour l'égalité femmes-hommes, un travail à faire sur les mentalités pour encourager des choses plus écolo, plutôt que les voitures, les déchets, le covoiturage. Valérie Pécresse qui annonce un covoiturage subventionné à 2 euros par trajet. Donc voilà, c'est des mesures comme ça qui doivent rentrer un petit peu. Parce que dans Paris, quand on est dans Paris et qu'on regarde les voitures, il y a toujours une seule personne dans les voitures. C'est évidemment des caprices. Il y a un transport qui existe. Utilisez-le ou alors mettez plus de personnes dans vos voitures.
Vive la liberté, tout de même.
Ah bien sûr.
Quand vous êtes à vélo, vous allez mettre aussi un gamin derrière. Si vous êtes à vélo tout seul, ça va pas. D'ailleurs, il suffit d'aller à Saïgon et là, vous verrez qu'ils se mettent à 3 sur une moto.
Oui, mais c'est peut-être pas l'exemple qu'on veut suivre aussi.
C'est paradoxal, mais c'est juste
la réglementation généralisée.
Mais aussi, la liberté, c'est aussi que tout le monde puisse vivre ensemble. Donc c'est ça qui est formidable. Aussi, quand on voit des personnes qui peuvent mourir aussi, des particules fines, etc.
Mais le polluer ensemble existe.
Ah, vous y croyez pas?
Mais non, mais attends. Le taux de mortalité n'a cessé de baisser dans ce pays, y compris.
De pollution, non ?
La pollution.
C'est vrai.
C'est un débat.
Une chose, parce qu'après, avant qu'on passe au débat, Stéphane Vernet, il y a un mot aussi qui a été prononcé aujourd'hui dans cette interview de Nicolas Hulot, qui sera sûrement prononcé, peut-être ou pas, on ne sait pas, demain lors des assises de la mobilité par Elisabeth Borne, c'est le fameux mot d'écotaxe. Voilà, le fameux mot d'écotaxe, celui-là risque de revenir. Alors, même rien que de le prononcer, il y a un petit côté Voldemort dans Harry Potter, mais est-ce que c'est possible de remettre ce sujet sur la table quand on se souvient de la crise de 2014 qui a quand même coûté aux Français près de 3 milliards d'euros, alors que ça devait en rapporter 1 milliard.
Oui, je m'en souviens d'autant plus que ça a démarré avec les bonnets rouges en Bretagne. Oui. Alors moi, si j'ai bien compris, sur le retour de l'écotaxe, si j'ai bien compris encore une fois, ce serait pour taxer des camions qui prennent les routes nationales et non pas l'autoroute. Enfin bon, tout ça reste à préciser. Peut-être que je me trompe, on va voir, on va le laisser sortir du bois. Moi, je voudrais dire autre chose. Votre sujet, c'est plan climat. climat, Nicolas Hulot peut-il sauver le monde ? Ouais. Alors, il y a une urgence climatique. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec François Dorcival sur la pollution de l'air. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la pollution de l'air par les particules fines tue des gens, et en masse, contrairement à ce qu'on...
En masse, voilà. Attendez,
à Paris, il y a quand même un problème endémique de pollution, et pas qu'à Paris, dans la vallée du Rhône.
En même temps, voilà. C'est là où les gens sont les mieux soignés.
Ce que...
Moi,
je partage pas ce point de vue. Je pense qu'on a un vrai problème de pollution.
Il y a quand même 425 000 personnes qui meurent prématurément à cause de la pollution. C'est vrai, mais oui.
Je pense que c'est une réalité et je pense qu'il est urgent de se pencher sur le phénomène. Ce que je voudrais dire par rapport à votre thématique et par rapport à ce qui vient d'être évoqué, c'est qu'il y a une urgence climatique. Est-ce qu'on peut sauver le monde avec des mesurettes ? Ce qui est intéressant dans les quatre premières mesures du plan climat montrées, dévoilées par Nicolas Hulot, c'est que on pourrait se dire c'est très grave, ça implique des mesures fondamentales, très très virulentes, et on pourrait passer entre guillemets par des interdictions, par des choses très contraintes, très forcées. C'est pas le choix qui est fait là. Le choix qui est fait là, c'est de l'incitation. On donne des primes, on donne de l'argent. Donc, ça en dit quand même long aussi sur la volonté d'avancer, d'atteindre un objectif, mais sans trop bousculer. Et je reviens pour terminer sur l'histoire de la pollution de l'air à Paris. Souvenez-vous du fiasco de la mesure qui avait voulu être prise, notamment en Île-de-France, pour interdire l'utilisation des inserts, des cheminées, pour arrêter de contribuer à la pollution. Et du jour au lendemain, hop, là, on était sur une interdiction. On fait marche arrière à cause du tollé. N'empêche que le problème de pollution de l'air, à Paris notamment, il existe et il est bel
et
bien.
Et pourtant, Franck Tapiron, on voit qu'il y a un moment, c'est des mesures peut-être plus dures à prendre, parce qu'on voit par exemple la circulation alternée, ces choses-là, ça ne change rien. On voit bien que la pollution, si on règle le problème sur une ville, c'est-à-dire que les villes d'à côté seront polluées, mais il y en aura une qui sera plus saine. Donc finalement, c'est sur tout un pays. C'est pour ça que finalement, c'est important peut-être de les prendre au niveau national, non ?
C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure par rapport à un problème politique qui a tué la vision écologique. Et là, on revient peut-être à une écologie citoyenne. Parce que c'est vrai que le problème, c'est où on commence, par quoi on continue, et quel est l'objectif final. C'est très, très compliqué. Il y a des problématiques de ville, de région, de pays, d'Europe, mondiale. Donc, sauver le monde, c'est un beau titre. C'est un très beau titre. Et puis, il fait bien à l'écran.
Oui, bien sûr.
C'est très bien. Maintenant, le vrai problème, c'est quel est le chemin. Et personne ne connaît le bon chemin. Pourquoi ? Parce que déjà, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. On parlait tout à l'heure, et moi je ne veux pas polémiquer, puisque je ne suis pas scientifique. Mais comme je m'intéresse beaucoup à l'écologie mais citoyenne, je me dis, mais qui a raison finalement ? Alors il y a des gens qui parlent de risque à 20 ans, d'autres à 10 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 50 ans, d'autres qui disent absolument n'importe quoi, qui sont que dans le fantasme. Pourquoi ? Pour servir certains lobbies, etc. Et là, on retrouve les fantasmes, le complot et tout ça. Donc finalement, le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas une unité, on parlait tout à l'heure du manque d'unité avec les syndicats, j'aimerais qu'il y ait une forme d'unité en termes d'écologie citoyenne. Parce que nous, en tant que citoyens, je peux vous dire qu'on ne comprend plus rien. Et ce que vous disiez tout à l'heure, justement, les deux, c'est que vous avez tous les deux raison. Mais si on prend une posture et un point de regard différent, peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, on a absolument rien.
François Dorcival, vous avez gagné. Je veux dire par là qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la question écologique et environnementale traverse tous les partis. Tous les partis.
Et tous les domaines de la société. Absolument. C'est pour ça que Nicolas Hulot souhaite agir sur tous les ministères. Bien sûr, c'est un débat qu'on aura et qu'on va continuer à avoir, et notamment le 1er décembre. Allez, l'info à 20h50, Stéphane Milhom.
Et l'agresseur d'un militaire vendredi dernier au métro Châtelet à Paris est présenté ce soir à un juge antiterroriste. L'homme de 39 ans doit être mis en examen pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. C'est la 7e attaque sur des militaires de l'opération Sentinelle depuis janvier 2015. 10 jours après le passage de l'ouragan Irma, l'ouragan Maria se rapproche. La Martinique est en alerte violette, la Guadeloupe en alerte rouge. Maria se renforce en ouragan de catégorie 3. 3 sur 5, la préfecture de Martinique s'attend à 300 mm d'eau en 24 heures et des vagues pouvant atteindre de 7 à 10 mètres. 1400 victimes de l'ouragan Irma prises en charge en Île-de-France. 1400 personnes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy arrivées en métropole ces derniers jours. Parmi elles, plus de 130 personnes, dont 75 enfants, qui vont bénéficier d'un hébergement d'urgence. Ces rescapés bénéficient également, si besoin, d'une assistance médicale. Coup d'accélérateur pour la prime à la casse de 1 000 à 2 000 euros pour pour remplacer de vieux véhicules diesel polluants, l'une des mesures phares de Nicolas Hulot. Le ministre veut également développer le chèque énergie, proposer des coups de pouce fiscaux pour changer les chaudières. Et puis on les appelle les autocars Macron et ils gagnent du terrain. 1 600 000 voyageurs ont emprunté ces cars qui sillonnent la France au deuxième trimestre, selon l'autorité de régulation des transports. C'est une hausse de 10% en un an. Ces voyageurs plébiscitent les trajets en car au sein de leur propre région, principalement les navettes en direction des aéroports.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on va parler de trois lettres qui stressent légèrement les membres du gouvernement. Ces trois lettres, c'est PMA. Hein. La procréation médicalement assistée étendue à toutes les femmes est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, mais pas forcément. Alors voilà, une promesse rapide du gouvernement. Début septembre, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, annonce que la PMA pour toutes sera effective en 2018. Petite suée hein, au gouvernement, puisque la ministre de la Santé explique que la PMA est hautement probable, mais qu'il faut attendre les états généraux de la bioéthique. Marlène Schiappa se raccroche alors au wagon et préfère aussi attendre le rapport. Quant au ministre de l'Intérieur, ben, y a comme un... comment dit-on déjà ? Ah bah oui, un malaise en fait, hein, Gérard Collomb.
Je proposerai que l'on puisse résoudre le problème du chômage avant de s'attaquer aux problèmes civilisationnels.
Ah, donc, vous n'êtes pas une priorité, donc pas pour 2018, comme l'a annoncé Marlène Schiappa.
Pour le moment, je n'ai pas vu ce projet porté dans le calendrier qu'on nous a donné. On verra bien pour la suite.
Vous dites que ce n'est pas une priorité.
D'accord. Bah, donc, pour Emmanuel Macron,
pour moi, la priorité, elle est aujourd'hui toujours économique et sociale.
Voilà, Gérard Collomb hier sur RTL. Fatima Eloisi, quand vous entendez un peu ce cafouillage, et notamment Gérard Collomb qui dit « Oui, oh là là, c'est pas tout de suite prévu, on verra, on repousse, on parle du voilà seulement avant tout du social », qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, justement, la PMA, c'est une question sociale, donc je comprends pas ce que dit Gérard Collomb. C'est un peu malheureux ce qu'il dit, parce que finalement, il va à l'encontre d'une promesse présidentielle. Voilà, c'était dans le programme. Moi, j'ai rencontré Schiappa à l'occasion de la présidentielle. C'était carte sur table, la PMA pour toutes. Ça a toujours été question de la mettre en œuvre. En juillet, ça a été annoncé lors de l'audition de la ministre au Sénat. Ça a été annoncé aussi devant l'Assemblée nationale. Donc, finalement, là, c'est juste un agenda médiatique qui se met en place et des personnes qui vont en parler parce que, finalement, ils n'ont que ça à dire. Ils n'ont que ces sujets-là pour s'exprimer. Et donc, ils vont mettre voilà, le paquet en termes de communication, voilà, la manif pour tous ou autre. Alors que, finalement, c'est quelque chose qui a été plus ou moins validé par le comité d'éthique.
D'éthique, exactement,
voilà,
en juillet dernier.
Voilà, le CNE qui l'a validé. Donc, c'est pour ça que Schiappa avait dit que voilà, ça allait être mis en place. Maintenant, il voilà, faut attendre le cadre de la loi de bioéthique. D'un côté, on a les militantes féministes et LGBT qui demandent à ce que ce soit fait hors loi bioéthique. Donc voilà, c'est dans l'agenda médiatique, mais c'est pas dans l'agenda gouvernemental
c'est
encore.
Ça
va l'être dans pas très longtemps, ça va l'être en 2018, probablement en 2019 ce sera effectif. Je n'en sais rien, il faut laisser le temps des débats parlementaires. Mais de toute façon, la PMA c'est une question sociale, peu importe ce que dit Gérard Collomb, s'il soutient Emmanuel Macron, il soutient la PMA.
Alors François Orcival, cette PMA aujourd'hui, on a vu en effet le Conseil d'éthique hein, donner son accord en juillet dernier. On se disait bon bah voilà, c'est ça va être finalement comme une lettre à la poste.
Vous attendiez des ordres.
Ben peut-être, oui.
Ben voilà,
c'est
une
ça.
Ordonnance sur
ben voilà.
La PMA. Bon, quand vous dites un problème social, non.
Justice sociale, dit la ministre, la secrétaire d'État, pardon. Non, mais je cite.
Justice sociale, non.
C'est ce qu'elle dit,
Marlène Schiappa. Oui, mais enfin, on peut dire n'importe quoi, mais
c'est question de justice sociale.
On peut parler de tout ce
qu'on
voulait.
Soit on interdit la PMA pour tout le monde, soit les femmes qui ont le droit, toutes les femmes ont y ont droit, c'est comme ça. C'est question de justice sociale.
Toutes les femmes y ont droit. Bon. C'est pas nouveau.
C'est pas actuellement. Actuellement, c'est juste les couples
parce
hétérosexuels.
Parce qu'elles se déclarent comme telles. Elles se déclarent comme telles. Moi, je vais pas entrer dans la technique, mais simplement, nous sommes devant un débat qui n'est pas un sujet social, c'est un sujet de société. Un sujet de société. Ça deviendrait un sujet social si cela devait être couvert par la sécurité sociale pour tous et pour toutes. Alors à ce moment-là, oui, on entre dans les problèmes financiers de la sécurité sociale. Et c'est aussi un problème politique.
Pourquoi ? Ah bah oui, bien sûr.
Mais évidemment.
Oui.
C'est pour ça que vous avez aujourd'hui une réflexion gouvernementale sur le sujet, car on a passé cette émission à parler de sujets sociaux avec tous les blocages que suscitent les ordonnances sur le travail.
Ouais.
Et il est évident que dans ce contexte-là, le gouvernement n'a pas besoin d'ajouter en plus une division dans ses troupes.
Il y a plusieurs choses, en effet, quand vous parlez de division de troupes, c'est parce que vous parlez notamment des ministres de droite. Et notamment, on se souvient, donc Gérald Darmanin, Bruno Le Maire également, Édouard Philippe étaient contre en tant que député. Mais il y a trois autres secrétaires d'État également qui étaient contre, Sébastien Lecornu, Jean-Baptiste Lemoyne et Jacqueline Gourault. C'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gens-là vont totalement s'extraire du débat, Stéphane Dabey?
Moi, je pense qu'ils peuvent pas. Il y a un problème de solidarité avec le président. Et puis, ils font partie d'un gouvernement. Donc, il y a une nécessaire cohésion. Moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit Gérard Collomb, c'est qu'il a utilisé le terme de problème civilisationnel. Donc, ça pose le débat, effectivement, pas sur le terrain du social, mais du débat de société. C'est-à-dire, derrière, il y a la question de la conception de la famille. La famille, c'est un organe qui évolue dans l'histoire. Vers quoi est-ce qu'on veut le faire aller? Et moi, je pense que quand il s'exprime comme ça à chaud à la radio, il faut pas oublier aussi qu'il est, c'est peut-être le maire de Lyon.
Il l'a expliqué en effet qu'il a eu des petits.
Là, pour le coup, j'étais pas d'accord avec François Dorcival tout à l'heure, mais là, je suis d'accord avec lui pour dire que derrière, il y a aussi un problème politique, c'est que c'est pas le moment pour le gouvernement de relancer un mouvement qui s'était essoufflé, qui est la Manif pour tous et qui pourrait remonter et qui a envie de remonter au créneau autour de cette histoire.
Franck Tapiero, très rapidement.
Oui, c'est un problème de séquence, tout simplement. C'était le mauvais sujet au mauvais moment. Ça veut pas dire que le sujet ne vaut pas le coup d'être traité, mais il tombait extrêmement mal parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres préoccupations, c'est tout. Donc quand il sera porté dans 6 mois, vous verrez, ça ne créera plus de polémique du tout.
Merci beaucoup Franck Tapiero, en tout cas d'être passé ce soir aux informés de France Info. Merci Fatima Elwazdi. Alors la une de West France demain, qu'est-ce que ce sera?
On va revenir sur l'histoire de prime à la casse en expliquant ce que ça va donner concrètement pour les propriétaires de véhicules. Et puis on fait un point sur les sénatoriales, la grande élection de cette semaine, c'est dimanche prochain.
Oui, dimanche prochain.
Il n'y a pas cette femme qui sont tête de liste et candidate, je tiens à le dire, une étude.
Exactement. Et nous avons été obligés d'avancer la parution du journal de 24 heures grâce aux grèves, si je puis dire. Donc, Wauquiez et ses confessions.
C'est alors des confessions. Alors, Franck Tapiero, vous vouliez juste rendre un petit hommage.
Un petit hommage à Paul Vermus, mon ami Paul Vermus, qui a disparu ce matin. Et voilà, on voulait tous dire qu'il va beaucoup nous manquer.
Allez, Jean-François Killy, justement, tout est politique.
Allez, très vite, on poursuit sur le climat avec Mathieu Orphelin, député de La République En Marche et ancien porte-parole de Nicolas Hulot. On l'a arraché à son apéro à Aubervilliers. François Jemaine, qui est chercheur à Sciences Po et à Liège. Et Chloé Nabédian, la Miss Météo de France 2.
Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.